Gardez-vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'excès de la sévérité. L'une est absolument opposée à l'autre. Il faut croire que le peuple doux, sensible, généreux qui habite la France et dont les vertus vont être développées par le régime de la liberté traitera avec humanité les coupables. Et convenir que l'expérience, la sagesse vous permettent de consacrer les principes sur lesquels s'appuie la motion que je fais, que la peine de mort soit abolie.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, on n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Les Yeux Grands Ouverts, l'émission qui a tous les dimanches soirs sur Radio Canu de 23h à minuit, enfin de 23h15 à minuit plus généralement. Ce soir, nous allons continuer la Révolution française, d'en parler. Nous allons continuer de la raconter. Lors de la première émission, on avait entamé un peu aussi ce sujet. La Révolution française, on la raconte d'une manière particulière parce qu'on essaye tout de même de raconter les événements dans leur généralité en s'attardant plus particulièrement sur un personnage, qui est Maximilien de Robespierre. Alors la semaine dernière, on en a parlé un petit peu, on a parlé un peu de ce qui se passait légèrement avant, du contexte économique, de ce qui a pu déclencher des événements comme la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, les éléments qui gravitaient autour, le fait que la révolution de cette période-là, de la première révolution comme certains l'appellent, n'est pas juste un soulèvement de populaire, c'est aussi impulsé par la petite bourgeoisie du tiers état qui envoie un peu le petit peuple en bélier et qui leur donne des pistolets pour qu'ils prennent la Bastille, etc., etc. On a parlé un peu de tout ça la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter les podcasts. Pour cela, si jamais vous voulez réécouter le podcast, pour cela, il faut aller sur le blog de l'émission sur le site de Radio Canu. Alors c'est Les Yeux Grands Ouverts, un blog Radio Canu, je sais plus quoi. Donc pour le trouver, c'est plus simple, vous allez sur le planning de la semaine de Radio Canu, vous cliquez sur l'émission Les Yeux Grands Ouverts et vous allez être dirigé directement sur le blog avec tous les podcasts. Si vous voulez trouver tous les liens qui concernent l'émission, vous pouvez également vous diriger vers la page Facebook de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Donc alors Les Yeux Grands Ouverts s'écrit tout au pluriel avec grand, avec un S ainsi que ouvert. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur j'aime, ainsi le thème de l'émission, tous les thèmes de l'émission seront exposés tous les dimanches avant que l'émission commence, peut-être même les samedis certaines fois. Des documents seront aussi relayés, hein, des petites vidéos, des choses comme ça. Et vous saurez tout sur l'émission, mais vous êtes obligé malheureusement de cliquer sur j'aime pour avoir tout le fil de l'émission, parce que sinon ça ne s'inscrit pas dans votre fil d'actualité. C'est comme ça qu'est fait Facebook. Voilà, donc il y a également une boîte mail qui a été mise en place qui s'appelle Les Yeux Grands Ouverts aussi, @laposte.net, Les Yeux Grands Ouverts tout attaché, tout au pluriel. Et si vous voulez nous faire parvenir des suggestions concernant les thèmes de l'émission, ou peut-être des idées, ou même des rectifications par rapport à ce qui a été dit dans l'émission, ou des idées de musique ou d'autres choses, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Également, on peut ajouter que Radio Canu fait un appel aux dons pour pérenniser son activité, puisque la radio a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins et à payer son loyer. Donc l'objectif serait d'acheter le locaux, et pour ça il faut avoir un peu d'argent, donc on lançait un appel aux dons. Malheureusement, dans la société actuelle, l'indépendance d'esprit et la liberté se payent à certains prix. On est obligé de subvenir à ses besoins et d'être indépendant en s'affranchissant des subventions, de la publicité ou des choses comme ça. Donc voilà, si jamais vous voulez parvenir, nous aider à tout ça, je vous donne le lien. Envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Voilà pour ce qui concerne l'émission Les Yeux Grands Ouverts, un peu tous les contacts, tout ce qui est la communication de l'émission. Nous allons donc poursuivre ce que nous étions en train de commencer la semaine dernière. Nous avons parlé de la Révolution française. Alors nous en étions dans notre récit à décrire ce qui était advenu suite à la prise de la Bastille, le contexte après la prise de la Bastille se calme un petit peu pendant une courte période, les insurrections se calment un petit peu. On arrive à calmer ces insurrections, notamment par exemple dans les campagnes où il y avait beaucoup de châteaux de nobles qui finissaient par brûler, parce que beaucoup de paysans, malgré que la Bastille ait été prise et était courant de tout ça, ne voyaient rien évoluer dans leur situation puisqu'ils continuaient à payer leurs impôts, etc. Donc il y a quelques révoltes qui se déclenchent un peu de partout. Alors on décide lors de la nuit du 4 août de faire l'annonce que l'on va abolir les privilèges. Ce que je vous dis, ce n'est pas une polémique non plus, on fait une annonce, on prévoit certaines lois, bien entendu ça calme toutes les révoltes qui se déroulent dans les diverses provinces, etc. Cependant, c'est pas réellement ça qui va se passer, puisque la loi n'est pas promulguée tout de suite. Et durant l'espace de temps qui va se dérouler derrière, pendant quelques jours, on va ajouter de plus en plus d'alinéas à cette fameuse loi. Notamment, il faut racheter en fait ses droits pour ne plus avoir à payer les droits féodaux. Alors pour ça, il faut racheter les droits au denier, ce qu'ils appellent le denier 30. C'est-à-dire en fait, si un paysan se ramène avec 30 ans de droits féodaux, s'il les paye tout de suite, ses 30 ans, et ben hop, il est affranchi à vie de cet impôt-là. Donc autant dire qu'il y avait très très peu de personnes qui étaient capables de régler des sommes pareilles. C'est la vraie abolition des droits féodaux se déroulera plus tard, mais on y reviendra dans notre récit, et ce sera Robespierre qui s'attellera à la tâche de les abolir. Alors, après la prise de la Bastille, donc c'est ce dont on parlait la dernière fois, au début du mois de septembre, le contexte économique et le manque de pain finit par remettre le peuple en mouvement. Puis la constitution traînant un peu, puisque le roi laisse traîner tout ça, il ne veut pas perdre son pouvoir, et il tient son droit de veto et à plein d'autres choses, il ne veut pas de cette monarchie constitutionnelle, il laisse traîner. Mais dans les journées du 5 et du 6 octobre, alors ça commence tout d'abord par les femmes de Paris qui descendent à Versailles pour réclamer du pain, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et les premiers slogans qui étaient énoncés par elle, c'est du pain pour nos enfants. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était différent. C'était les femmes qui s'occupaient de la famille et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il c'est elles, au départ, qui vont en première ligne. Il y a certaines femmes qui rentrent même dans Versailles et qui parlent avec le roi. Et voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le roi ne recule pas vraiment. Il dit qu'il va se débrouiller pour que les gens aient du pain, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. On lui dit même que l'on veut qu'il revienne sur Paris et qu'il finisse par accepter cette constitution. Le roi va dire qu'il prétend vouloir réfléchir, il veut une nuit pour ça, etc., etc. En fait, il essaye tout simplement de noyer le poisson. Malheureusement pour lui, les citoyens ne s'en laissent pas compter. Le lendemain matin, ça reprend. Le peuple revient encore plus nombreux devant le château, accompagné notamment par Jean-Paul Marat, un grand révolutionnaire qui est connu de tous. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que toutes ces personnes vont le sommer de se présenter au balcon du palais pour prouver qu'il n'a pas trahi tout le monde en profitant pour s'enfuir. Donc Lafayette se retrouve aussi avec le roi, se met au balcon et annonce à la foule que le roi a fini par accepter la constitution et dit qu'il la signera. Bon, il n'a rien signé tout de suite, hein, mais il dit qu'il le fait. Malheureusement pour le roi, en tout cas heureusement pour les autres, pour le peuple, le roi donc sera obligé de gagner le palais des Tuileries pour éviter que le peuple continue à s'insurger sur lui. Donc il regagne son palais des Tuileries. Malheureusement, au niveau intérieur, les choses elles vont s'aggraver de plus en plus, hein, parce que les gens crèvent de plus en plus la faim. Au point que le roi finit par tenter de s'enfuir à Varennes parce qu'il sent que vraiment que c'est pas bon pour lui et que ça part en cacahuète, si on peut dire. Et il est dénoncé par un petit Thénardier, hein, pendant sa fuite où il s'arrête, qui le reconnaît par rapport au fait qu'il y a sa tête qui est dessinée sur les pièces de monnaie. Sinon, il ne connaissait pas du tout la tête du roi. Donc, forcément, tout ceci s'ébruite. À ce moment-là, le peuple comprend encore plus qu'il y a une controverse au sujet du roi, que tout simplement il veut s'enfuir. Et après il y a différentes versions, mais des versions de l'histoire, certaines disent que en fait l'objectif du roi à ce moment-là, c'était de rejoindre ce qu'on appelait à l'époque les émigrés, c'est-à-dire des envoyés militaires pour reconstituer une armée plus loin, pour venir reconquérir son pouvoir et refaire un coup d'état derrière. D'autres pensent qu'il voulait juste rejoindre d'autres têtes couronnées dans d'autres pays pour se faire protéger, etc. Et peut-être éventuellement derrière mener une contre-offensive. Voilà, donc il se fait coincer en tous les cas. Le peuple est conforté dans son idée que Louis XVI ne veut pas du pouvoir du peuple et qu'en plus dans tout ça, on le soupçonne d'avoir une part d'être lié avec les cours des autres pays qui sont normalement censés être des ennemis. Alors, suite à ces péripéties, il va intervenir un événement qui n'est quasiment jamais cité dans les livres d'histoire, hein, dont je vais vous parler tout de suite après. Même lorsque vous cherchez les dates les plus importantes, hein, ça arrive, je sais pas, vous pouvez le faire sur internet, vous regardez, vous tapez les dates importantes de la Révolution française, il y a tout un tas de détails, hein, on va vous sortir tout un tas d'événements super précis. Celui-là, on ne vous le cite jamais, ou alors que très peu, hein, il y a quand même des pages, hein, si jamais vous connaissez déjà l'événement, vous le tapez sur Google, il y a une page Wikipédia qui existe, hein, mais si on n'en entend pas parler, c'est difficile de trouver dans les récits quelque chose qui évoque ça vraiment en profondeur. Ce sera la fusillade au Champ de Mars. Par exemple, on vous cite aussi notamment qu'il y a la France qui a été divisée en 83 départements, par exemple le 26 février 1790. C'est des détails qui sont quand même importants à évoquer, hein, mais la fusillade du Champ de Mars a quand même fait quelques morts derrière en plus, mais cela on n'en en parle jamais. Voilà, alors on va se mettre tout de suite un petit morceau, hein, pour se mettre bien. C'est un morceau de Damien XVI qui s'appelle Marianne.
Au vent des rois, des drogues et puis des rêves en bois. Ton cœur a bouffé pour les chiens. Tu dis merci, je dis de rien. Perdu dans le coffre aux jouets. Je crois qu'on a perdu la clé. Marianne, arrête un peu les joints. Et ta jeunesse, beaucoup de rien. Marianne, ton cœur à l'odeur du fumier, sur la paille, toi tu m'as laissé. Marianne, un jour faudra régler les comptes de nos vanités. Tes libertés qui mènent à quoi? Tu viens faire un tour dans les bois, au cours des bouteilles à la mer, des cendres à jeter pour la terre. Hey, hey, Marianne,
Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canus 102.2 FM à Lyon. Et ce soir, nous parlons de la Révolution française. Alors, avant le petit morceau de Damien XVI qui vient d'être diffusé, Marianne, je parlais des événements du Champ de Mars. Alors, on va un peu introduire tout ça. On ne peut pas non plus parler directement de ça. Alors, on était à la fuite du roi à Varennes. Donc, suite à cette fuite, le peuple prend conscience que le roi n'est pas quelqu'un de confiance, qu'il ne peut pas s'y fier, que son élite va peut-être le trahir. Donc, partant de ce postulat, il décide de prendre un peu les choses en main. Il faut préciser donc aussi au passage que, par exemple, pour situer dans le contexte, en ce que je disais tout à l'heure, en octobre 1789, après la prise de la Bastille et le rachat des fusils, puisque, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'était des banquiers qui avaient ouvert les Invalides pour permettre au petit peuple de prendre des fusils pour aller prendre la Bastille, il y avait des lois qui avaient été votées. On a éteint donc la contestation du petit peuple en rachetant les fusils tout d'abord, mais la bourgeoisie qui accède au levier de commande à la place de l'aristocratie et des gens de l'église veut imposer aussi son despotisme, et elle va le faire par deux biais différents. Tout d'abord, la loi Le Chapelier, il me semble que je l'ai déjà évoqué la semaine dernière. C'est une loi qui interdit aux travailleurs de se coaliser pour enchérir leurs droits. Donc en gros, on interdit les syndicats, même pire que ça, même les coalitions, hein, donc c'est encore plus grave que ça. Mais aussi, on crée ce qu'on appellera la loi martiale. Cette loi, elle interdit les regroupements de plus de 20 personnes pour éviter les troubles à l'ordre public. Ce qui est une hypocrisie sans nom, puisque la bourgeoisie se sert de ces attroupements pour se servir, pour faire tomber le pouvoir de l'aristocratie, etc., et choper les leviers de commande. À ce moment-là, elle se sert du petit peuple et elle le réunit en gros groupe pour aller prendre la Bastille. Elle s'en sert comme un bélier. Et puis, une fois qu'elle a réussi à choper les leviers de commande, elle dit aux travailleurs, surtout ne vous révoltez pas, restez en tout petit groupe dans vos coins et n'ayez pas le droit de vous coaliser pour défendre vos droits. Voilà, donc c'est une hypocrisie totale, et c'est là où le peuple commence à se rendre compte qu'il s'est fait berner par cette première révolution. Donc, alors, suite à la fuite du roi à Varennes et de sa non-soumission à la Constitution, le peuple est fatigué de tout ça. Louis XVI, une fois découvert, est obligé de finir par accepter la Constitution, mais elle va mettre longtemps avant de rentrer vraiment en vigueur. Et il veut absolument garder son droit de veto, par contre. Hein. C'est-à-dire, ça finira par causer sa perte. Toutefois, de nombreuses personnes ne lui font plus du tout confiance et enfreignent la loi martiale. Le 15 juillet, une bonne partie des cordeliers, hein, c'est ce qu'on appelait c'était les clubs qui avaient des noms comme ça. Et donc, il y avait les cordeliers, les jacobins. C'est des petits clubs qui étaient par exemple, dans des petites maisons. C'est l'équivalent un peu ce qu'on pourrait appeler des bourses du travail qui sont arrivées plus tard. Les gens se réunissaient là-dedans et parlaient de politique, et évoquaient des actions à faire en commun, ou c'était des clubs de discussion, quoi, en fait. Donc les cordeliers, eux, étaient environ le 15 juillet réunis à 4000 personnes sur le Champ de Mars afin de faire signer une pétition qui demandait la déchéance du roi. C'est-à-dire qu'on le destitue de son rôle et qu'il n'ait plus aucun pouvoir et qu'il n'existe plus, qu'il ne soit plus roi, quoi. Le 15 juillet, ces derniers sont dispersés gentiment, entre guillemets, hein, bien sûr, par la garde républicaine. Le soir, ils rendent compte aux jacobins de ce qu'ils ont fait. Et ces derniers décident de faire la même chose en faisant signer une pétition pour le refus du rétablissement de Louis XVI, hein, puisqu'il a été démis de ses fonctions. Au début, Robespierre est contre cette pétition parce qu'il a peur que ce soit un prétexte pour qu'il y ait une violente répression, parce qu'il sait qu'il y a la loi martiale. Malheureusement, il va pas se tromper. Et il n'est pas d'accord sur tous les points. Les Jacobins ne sont pas d'accord sur tous les points avec les cordeliers. Et ils finissent par se mettre d'accord un peu tard dans la nuit du 16 et décident de retourner sur le Champ de Mars pacifiquement le lendemain pour faire signer une pétition du même genre. Malheureusement, dans la nuit du 16, il y a d'autres événements qui se déroulent. Il y a un décret du 16 qui met fin aux doutes sur l'avenir du roi, puisque le roi est rétabli dans ses fonctions. Et le 17 juillet, le matin, Robespierre essaye de rétropédaler et de faire annuler cette pétition. Malheureusement, les gens qui étaient conviés à se réunir sur le Champ de Mars y vont quand même, pour la plupart. Robespierre les suit par solidarité. Les cordeliers décident de créer une nouvelle pétition, en fait, pour la faire signer par les gens. Une pétition qui parle de faire la déchéance du roi, comme ce qu'ils avaient fait deux jours avant, le 15. Camille Desmoulins et Danton, eux, qui sont du club des cordeliers, pas des jacobins comme Robespierre, s'exilent, ne vont pas sur le Champ de Mars. Au départ, tout se passe très bien. La foule est réunie très pacifiquement. Le 17 juillet, c'est un dimanche, donc le Champ de Mars était un petit peu le symbole de la Nouvelle République. Alors il y avait beaucoup de gens qui allaient se promener là-bas le dimanche. C'était très bon enfant. Il y avait juste un peu de monde. Au début de la journée, il y en avait un petit peu. Il y a des personnes qui espionnaient un peu ce qui se passait, qui étaient sous l'hôtel de la place, qui sont fait lyncher et qui se sont fait dégager à coups de pied aux fesses. La garde va se servir de cela comme un prétexte pour intervenir. La foule qui, au départ de la journée, est à 200, se retrouve environ à 20 000 dans l'après-midi. Alors forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. La garde nationale prétendra qu'il va y avoir des jets de cailloux sur certaines personnes. Alors la garde nationale arrive. Lafayette débarque aussi avec des canons. Le rejoint quelques heures plus tard le maire de Paris, Monsieur Bailly. Personnage très célèbre pour la fameuse scène du serment du jeu de paume. Hein, tout le monde connaît ce tableau où il y a une personne qui est debout sur une table avec une main sur le cœur et une main en l'air. Il prête serment de ne pas quitter l'endroit avant qu'une constitution soit écrite. Et ben, la personne qui est debout sur la table, c'est Monsieur Bailly, le maire de Paris, qui rejoint donc Monsieur Lafayette. Alors les versions de l'histoire sont toutes complètement différentes. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé à ce moment-là. On sait que normalement la loi martiale prévoyait qu'il y ait des sommations qui soient faites, qu'on demande aux gens de se disperser avant qu'il y ait des répressions. Bien entendu, ce jour-là, aucune sommation ne sera faite au peuple, aux gens qui sont réunis à cet endroit-là. Il y a apparemment, à un moment donné, un coup de feu qui est donné quelque part. C'est une des versions de l'histoire qui dit ça. Un coup de feu dont l'origine est inexpliquée qui est donné quelque part. Et c'est ça qui déclenche les tirs de la garde nationale qui tire dans le tas, en fait, qui tire dans la foule. Alors, il y a d'autres versions de l'histoire qui disent que c'est Lafayette qui a ordonné de tirer. Il y en a d'autres qui disent que c'est Monsieur Bailly qui est arrivé précipitamment et qui a ordonné de tirer, et la garde nationale a cru que c'était un ordre de Lafayette. Il y en a d'autres qui disent qu'il y aurait eu un coup de feu qui serait parti de la foule. Et au final, ben, le résultat, c'est toujours le même. C'est que c'est les petites personnes qui étaient là et qui demandaient rien de mal, disons, qui faisaient juste signer une pétition, qui se font tirer dessus, qui se font tirer comme des lapins. Voilà, donc la fameuse bourgeoisie qui était louangée pendant la première partie de la Révolution, le 14 juillet, ce fameux Bailly qui prête le serment du jeu de paume, etc. Et ben, ils se sont tout simplement transformés, et peut-être pas transformés, et ils sont tout simplement apparus au grand jour comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des bourreaux du peuple également, des gros bourgeois qui veulent juste récupérer certains leviers de commande mais qui veulent continuer à exploiter leur petit monde. Et voilà, et la foule se rend compte que toutes ces personnes, au final, ne vont pas dans leur sens et ne veulent pas défendre l'intérêt du petit peuple. Alors cette fusillade, selon les différentes sources, au moment de la fusillade, il y a plus 20 000 personnes, il y en a beaucoup moins, elle provoquera, selon les lafayettistes, les journaux lafayettistes qui sont parus le lendemain, il y aurait 10 morts, alors que selon les montagnards, ce qu'on pourrait appeler les montagnards, mais les gens qui étaient présents, grosso modo, et notamment Marat, les journaux de Marat, il y a eu plus de 200 morts. Alors c'est difficile de quantifier, de savoir réellement ce qui s'est passé, parce que beaucoup de moments de cette révolution sont très très ambigus. On ne connaît pas vraiment les faits exacts de ce qui s'est passé dans l'histoire, comme au moment de l'arrestation de Robespierre. Certains disent qu'il s'est tiré une balle dans la tête tout seul, d'autres disent qu'on lui a tiré dessus. On dit que aussi qu'il est tombé au moment où il a voulu tirer sur les policiers et que c'est pour ça qu'il s'est tiré dans la mâchoire. Enfin bon, à mon avis, il y a beaucoup d'énormité où on ne veut pas nous dire la vérité, ou peut-être qu'on ne la connaît pas tout simplement. Voilà. On ne sait pas si il y a eu un accident ou si c'est Lafayette ou Bailly qui a demandé de tirer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges autour de tout ça. En tout cas, c'est un événement super important parce qu'il symbolise la fin du rôle historique de la bourgeoisie progressiste dans cette période de la Révolution, puisqu'elle décide totalement de changer de camp et de se placer du côté, carrément on peut le dire, du roi, défendre les intérêts du roi aussi. Maintenant qu'on lui a laissé certains leviers de commande et qu'on la laisse gagner de plus en plus d'argent, la bourgeoisie ne veut surtout pas que le peuple prenne le pouvoir et décide. Et voilà, c'est un peu un tournant de la Révolution française. Alors, où en sommes-nous ? Eh ben, on va continuer un petit peu. Alors, en septembre 1791, la monarchie constitutionnelle est promulguée, officiellement. Louis XVI a fini par abdiquer. En octobre est élue la première législative, J'en ai déjà un petit peu évoqué lors de la semaine dernière, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails. Et donc il y a une constituante qui a été faite juste avant, comme je vous racontais. C'est une assemblée qui est chargée d'écrire la constitution. Robespierre a peiné à se faire entendre durant cette constituante. Il décide de faire voter une loi disant qu'aucun député présent dans la constituante ne pourra se faire réélire dans la législative suivante. Malheureusement, comme le droit de vote n'est pas autorisé pour tout le monde, on se retrouve encore plus avec une chambre de notables, puisqu'il y avait, comme je vous ai énoncé lors de la dernière émission, les citoyens actifs et passifs. Ceux qui étaient actifs, c'était ceux qui payaient ce qu'on appelait le cens. C'était un seuil d'impôt quand on gagnait une certaine somme d'argent. Une fois qu'on dépassait un seuil, on payait un impôt qui s'appelait le cens. Et donc les gens qui payaient cet impôt avaient le droit de voter et les autres non. C'est pour ça que ce mode de votation s'appelle le suffrage censitaire et non le suffrage universel, qui s'applique à tout le monde. Alors cette législative est élue, la droite est désormais représentée par 250 membres environ, qu'on appelle les feuillants. Et c'est des partisans sincères de la monarchie constitutionnelle, dont le but est de terminer la révolution, pour eux ça doit s'arrêter là. Le centre, ou les indépendants, ce qu'on appelle aussi le parti constitutionnel, ou le marais, ou plein d'autres noms, la plaine, etc. 345 députés, c'est les plus nombreux, hein, même bien qu'on ne connaisse pas réellement leurs orientations politiques pour beaucoup d'entre eux. Alors ce qu'on appelait à l'époque, à ce moment-là, hein, dans cette législative-là, la gauche, 136 membres inscrits au club des Jacobins. Aussi, là-dedans, il y a des Girondins aussi, hein, qui en réalité sont des libéraux en puissance, mais vu les marqueurs politiques de l'époque, on pourrait les situer à gauche. Et enfin, il y a après, derrière, l'extrême gauche, qui est très peu nombreuse et représentée par des révolutionnaires très très isolés. Alors la misère continue à s'accroître de plus en plus, hein, à côté de ça, hein, malgré que les choses aient un tout petit peu évolué. Il y a des citoyens qui réclament ce qu'on appelle le maximum, c'est-à-dire le maximum des prix. C'est-à-dire fixer les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Au moment où cette réclamation est faite, hein, c'est pendant la constituante, et à ce moment-là, Robespierre propose évidemment à la constituante, pour qu'on mette dans la constitution, mais bien évidemment, comme à chaque fois, il se fera insulter et il n'y parviendra pas. Mais la colère populaire finit par grimper. Un jour, il y a un maire d'une petite ville qui s'appelle Étampes et qui est pris à partie par des gens, puisque ces gens lui réclament d'instaurer le maximum dans la ville pour qu'il puisse continuer à acheter du pain et à manger. Le maire refuse catégoriquement et les ouvriers qui sont allés voir le maire décident de le tuer. Donc comme j'expliquais la semaine dernière, les fameux députés girondins qui sont très influents dans la nouvelle législative, avec tous les députés de droite, hein, qui sont beaucoup plus nombreux mais qui sont d'autant plus d'accord avec eux parce qu'ils ont un peu la même doctrine économique, les girondins qui sont prétendument de gauche à ce moment-là, la révolution, même s'ils vont vite être démasqués, hein, par rapport à la sympathie qu'ils vont avoir à l'égard du roi et de la tyrannisme économique, ces fameux girondins donc à ce moment-là vont décider de faire la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Et il va y avoir de très vifs débats à la tribune des Jacobins, parce que les Girondins font partie des Jacobins à ce moment-là de la Révolution, dont notamment Brissot, le Girondin fait partie, ainsi que Robespierre, hein, lui il n'est pas Girondin, il est montagnard, mais il fait partie du club des Jacobins aussi. Robespierre n'est pas du tout d'accord avec Brissot, hein, qui lui va vouloir faire déclarer la guerre à la Prusse. Et bien entendu, il y a des très très vifs débats. Brissot prétend que s'il le fait, c'est pour s'il veut que la France déclare la guerre à la Prusse, c'est pour répandre le feu révolutionnaire à travers toute l'Europe. Robespierre lui répondait à ce sujet: parfait, envoyez des missionnaires partout, mais pas des soldats, car personne n'aime les missionnaires armés. Car tout le monde sait comment cela se finit, hein. C'est que les soldats, bien sûr, ben, ils vont violer, ils vont tuer, ils vont piller. Donc forcément, ça serait une très mauvaise influence, une très mauvaise, entre guillemets, communication pour la révolution. Robespierre parle également de remaniement par rapport à la constituante qui avait fait voter à l'unanimité que la France garantissait qu'elle ne ferait plus de guerre d'agression. Et on prétend aussi que ça pourrait être une guerre préventive, ce qui est totalement faux. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que certains ouvriers avaient été tués le maire des Tempes. Au milieu de tout ça, vous disiez peut-être que c'était bizarre, mais c'est tout simplement pour la raison suivante. Brissot dira au sujet de cette guerre, la guerre est indispensable à la tranquillité intérieure. Car les Girondins, bien sûr, ont très très mal pris, eux qui sont pour la plupart des propriétaires en puissance. Ils ont très mal pris le fait que le maire des Tempes ait été assassiné, pour eux le fait que certains montagnards aient demandé le maximum et que le peuple en face d'eux-mêmes est une menace totale pour la propriété individuelle. Il est préférable pour eux d'envoyer les travailleurs qui crèvent la faim au front, comme ça il se passera plus ce genre de choses. Et les Girondins pensent que la liberté est tout d'abord en fait de la liberté d'entreprendre, donc ils commencent même à annoncer lors de la législative que pour eux il devrait être totalement interdit à l'État ou à n'importe quelle politique d'intervenir dans l'économie et dans les marges bénéficiaires. Ils iront même jusqu'à dire qu'il doit être instauré la peine de mort contre quiconque propose la moindre atteinte à la propriété, ce qui bien sûr ne sera heureusement pas retenu. Il y a une autre personne, pour en revenir au fait que la France déclare la guerre à la Prusse, qui est une autre personne qui va objecter dans ce sens, c'est monsieur Narbonne, qui est ministre de la guerre à ce moment-là. Il dit, il faut faire la guerre, le sort des créanciers de l'État en dépend. Donc, ce qui prouve vraiment que ils essayent de prétendre que cette guerre est une guerre préventive ou pour répandre l'influence de la révolution. Mais en fin de compte, tout ce qu'ils veulent, c'est renflouer les caisses de l'État, puisque à ce moment-là, on avait créé une monnaie, papier qui était gagé sur les biens qu'on avait saisis à l'église, qui s'appelle l'assignat. Donc un assignat valait un franc or. Malheureusement, à force d'avoir fait fonctionner la planche à billets, il y avait beaucoup moins de biens qui étaient gagés sur ces papiers là et donc l'assignat avait subi une dévaluation de 20%, donc il fallait renflouer les caisses. À ce moment-là, il fallait renflouer les caisses. Donc, on essaye de trouver tout un tas de prétextes. Louis XVI dira également aussi au sujet de cette guerre, parce que lui aussi était pour, il sait que ça servirait ses intérêts, puisque la petite plèbe, le petit peuple, irait au front et se ferait tuer, et au final, le laisserait tranquille. Louis XVI a dit, en envoyant une lettre à Breteuil, qui était un de ses ministres, notamment celui qui a substitué Necker, et qui a été reviré derrière lorsqu'il y a eu la prise de la Bastille, Louis XVI dira à Breteuil, l'état physique de l'armée française est tel qu'elle ne peut même pas faire 6 mois de campagne. Sous-entendu, il faut attaquer absolument tout de suite. Donc ils décideront d'attaquer tout de même. Pour Robespierre, ce sera une guerre de diversion en fin de compte. La guerre commence et l'état lamentable de l'armée française ne l'amène qu'à la défaite. Les premiers fronts sont totalement ouverts pour les Prusses, mais les Prusses n'avancent pas tout de suite. Décident de ne pas avancer parce qu'ils sont en fait totalement préoccupés par autre chose. Ils sont préoccupés par l'affaire de la Pologne qui n'est pas encore terminée. Et c'est pour le plus grand désespoir de Marie-Antoinette qui, comme je vous l'ai dit certainement lors de la précédente émission aussi, avait demandé à son frère dans une lettre « Le plus grand service que vous puissiez nous rendre, c'est de nous passer sur le corps. » Parce qu'elle sent, elle aussi, qu'il y a un état d'insurrection énorme et qu'à un moment donné, ça va leur coûter très très cher. Alors ils veulent que les rois d'autres pays attaquent pour leur sauver la mise, hein, tout simplement. Voilà. Alors, un petit morceau. Tiens, ça va faire du bien. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? On va s'écouter un morceau du groupe Mastodon qui s'appelle Naked Burn. Allez, en avant. Alors, hop. C'était Mastodon avec Naked Burn, issu de l'album Léviathan, qui est un très très bon album d'ailleurs. Alors, nous allons reprendre le récit de la Révolution française. On s'était arrêté juste avant le morceau. On s'était arrêté où d'ailleurs, à Marie-Antoinette qui disait à son frère d'intervenir pour le plus grand service que vous puissiez nous rendre, c'est de nous passer sur le corps. Là ensuite, une fois que tous ces événements sont arrivés, la première législative a été élue au début du mois d'octobre. Elle va pas tenir très très longtemps d'ailleurs, parce qu'elle fait absolument rien bouger pour les petites gens et ils s'en rendent très rapidement compte. Il va arriver un moment charnière de la Révolution française qui est très très important et qui va déclencher en fait la vraie révolution selon moi. C'est le manifeste de Brunswick. Alors c'est la date exacte, c'est aux alentours du 25 juillet 1792 qui est publié ce truc. Donc manifeste de Brunswick qui est un duc autrichien qui menace Paris de représailles exemplaires s'il est fait le moindre mal au roi et à sa famille. Alors bien entendu, ça va exaspérer les Parisiens, donc il le dit à peu près en ces mots. Je vais peut-être pas lire tout le truc là, bon, c'est pas si long que ça, remarque. Alors Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté le Roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général commandant en chef des deux armées, déclare que les généraux officiers, bas-officiers et soldats des troupes de la ligne française sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté et de lui assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens obligent les sujets envers les souverains. Leur majesté impériale et royale rendent personnellement responsables tous les événements sur leur tête pour être jugés militairement sans espoir de pardon tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité, etc., etc. Ensuite, que si il dit à la fin de ce manifeste que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence ou le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Voilà, en fait, c'est très très grave ce qu'il fait, parce qu'il avoue complètement que la cour royale a des intérêts totalement communs avec la cour prusse et autrichienne, qui normalement sont censés être des ennemis, puisqu'ils se déclarent la guerre mutuellement. Et en fait, dans ce manifeste, il dit grosso modo au petit peuple, ne touchez pas un seul cheveu du roi, parce que sinon on vous tue et on massacre la ville de Paris. Donc c'était très grave, parce que là le peuple comprend une bonne fois pour toutes qu'il est totalement trahi par ses élites et surtout par le roi. Et déjà les tensions montant sur le front et qu'il y ait des très mauvais résultats, les Prusses se rapprochent de plus en plus de la France, car l'affaire de la Pologne est réglée. Sous l'impulsion de Georges Danton et de bien d'autres, certains vont prendre le contrôle de ce qu'on appelle la commune insurrectionnelle. C'est la commune insurrectionnelle de Paris, et d'ailleurs c'est ça qui dirige le pays à ce moment-là, puisque c'est dans la panique totale de l'arrivée des Russes, puisque le front se délite totalement. Et aidé par les fédérés marseillais qui montent à Paris, ils arrivent armés, etc., etc. D'ailleurs, c'est en montant à ce moment-là pour rejoindre Paris qu'arrive la Marseillaise. Durant leur chemin, ils arrivent au niveau de Strasbourg et apprennent la Marseillaise. Et ensuite, ils la chanteront quand ils arrivent à Paris. Ils la véhiculent, ils la transmettent aux autres. Donc, c'est cette partie des fédérés marseillais qui remontent à Paris et qui est armée, et ben, va aider les gens et la commune insurrectionnelle à prendre les Tuileries et à prendre le contrôle sur les Tuileries et de dégager le roi et de le faire arrêter. Alors, ils vont aussi arriver à armer certains petits prolos, puisque beaucoup sont rentrés dans la garde nationale, puisqu'il y a des conflits qui commencent un peu de partout sur le front prusse. Certains arrivent à choper des armes et on finit par prendre les Tuileries. Le roi est arrêté, bien sûr, dans tout ça, il y aura beaucoup de morts, hein. Le roi est arrêté, il sera fait prisonnier mais envoyé en premier temps dans un premier lieu qui est l'Assemblée nationale, puisque c'est là un lieu où il sera en sécurité avant d'être envoyé en prison de toute manière, et il est envoyé dans un premier temps à l'Assemblée nationale. Une fois que tout ceci a été fait, la monarchie s'écroule, la constitution de ce qu'on appelait la première monarchie constitutionnelle française se casse la figure aussi. Robespierre en profite pour faire voter immédiatement le suffrage universel, et là, la vraie révolution commence. Alors, Chateaubriand dira à ce sujet, à partir du 10 août, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. C'est la première république qui pointe son nez, il faut faire écrire une constituante, et à ce moment-là, les gens décident, parce qu'on ne voulait pas l'appeler constituante numéro 2, puisqu'on avait fait une constituante à peine 2 ans avant, et on va l'appeler convention. En fait, à la base, c'est un mot qui est d'origine anglophone, puisqu'il y avait un américanisme très fort, puisque les Américains venaient d'obtenir leur indépendance et que la France y avait bien participé, notamment surtout Lafayette. Alors chez eux on disait convention, et nous en France on va appeler ça convention. Donc c'est exactement le même principe que la constituante, on va écrire une constitution pour la première république. Alors bien entendu, il faut élire les gens pour cette convention. À l'époque, 80% des gens ne savent pas lire, donc ne votent pas, mais pour une raison qui est aussi qu'ils sont en difficulté et sont souvent les petites gens soumis à la petite bourgeoisie qui les dirige, leur petit patron, etc. Ils vont aussi mal voter ou mieux voter. Mais aussi pour d'autres raisons que je vais vous expliquer d'ici peu, et que un petit document que je vais vous faire écouter où Henri Guillemin explique un peu la situation de ce moment-là, c'est que les élections pour la Convention se déroulent pendant une période particulière qui s'appelle les massacres de septembre. Alors écoutons Henri Guillemin qui nous explique grosso modo ce qu'il pense des massacres de septembre et ce qui s'est à peu près passé. Il ne rentre pas trop dans les détails, il l'évoque rapidement, mais c'est déjà bien éclairant.
Alors qu'est-ce que c'est les massacres de septembre? Eh bien, vous vous rappelez, la situation est celle-ci, les Austro-Prussiens, surtout les Prussiens, ont fini par avancer. Hein, on vient d'apprendre que Verdun est tombé. C'était la dernière citadelle qui pouvait défendre Paris. Alors à ce moment-là, il se produit des choses que l'on ne sait pas assez, que je vais vous dire. Des quantités d'aristocrates avaient été arrêtés, ils étaient dans les prisons. Ces gens avaient le droit de commander à l'extérieur des repas. Et ils avaient organisé, dès que la nouvelle de Verdun, de la chute de Verdun est arrivée, ils avaient organisé de grandes fêtes dans les prisons. Alors ces fêtes se produisaient avec cumul, on entendait ça à l'extérieur, et depuis plusieurs jours, des quantités de jeunes Français s'engageaient comme volontaires. C'est le moment où Danton avait poussé son fameux cri, vous savez, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. J'ouvre ici une parenthèse, je n'oublierai pas Marat, j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que ce cri de Danton était un cri artificiel et fictif, puisque Danton était en train de négocier secrètement dans la coulisse avec les Austro-Prussiens pour qu'il n'y ait pas de combat. Effectivement, vous savez ce qui va se passer? Nous, les Français, nous serons en face des Prussiens à Valmy et le combat n'aura pas lieu. Brunschwig, qui peut-être a été acheté ou qui a d'autres raisons, ne lancera pas l'infanterie prussienne. Donc quand Danton dit qu'il faut aller se battre, il faut s'engager, c'est surtout pour dégorger Paris des éléments les plus tumultueux. Et quand il annonce que c'est du super patriotisme, n'en croyez rien, puisqu'il est en train d'essayer de traiter en livrant une partie du territoire français. Bien. Alors, il y a tous ces aristocrates qui font leur grand festin dans les prisons et qui chantent des chansons en l'honneur de ceux qui vont venir les délivrer. Alors, il se produit à ce moment-là, d'une manière assez organisée du reste, ces massacres. À savoir que surtout les femmes ou les parents de ceux qui se sont engagés entrent dans les prisons pour couper le cou à ces gens qui chantent victoire quand leurs enfants sont en train de se faire tuer. Il y a là une organisation qui dure 48 heures au moins, où section par section et prison par prison, on entre et on tue. Danton était à ce moment-là le ministre de la Justice. Et quand on vient lui dire essayer d'arrêter les massacres, il répond non, les prisonniers ne m'intéressent pas. C'est un moment affreux, hideux, de la Révolution française. Mais je vous en donne l'explication, il y avait, pour ainsi dire, provocation des aristocrates qui se félicitaient de voir arriver les étrangers. Voilà tout ce que je peux vous dire, grosso modo, sur les massacres de septembre.
Voilà, alors il évoque grosso modo, hein, il explique qu'en fait le son était complètement dégueulasse, je suis désolé. Je n'ai pas réécouté la partie parce que j'ai converti le format du fichier, en fait le son ressort vraiment très très mal, donc j'espère que vous avez compris grosso modo. Les aristocrates, beaucoup d'entre eux avaient été arrêtés, et plein d'autres, donc ils étaient dans les prisons. À ce moment-là, on commençait à envoyer plein de petits jeunes au front. Les aristocrates étaient au courant de ce qui se passait, ils savaient que sur le front prusse, les gens avançaient et qu'ils pensaient pouvoir être libérés par l'arrivée des Prusses et des Autrichiens sur Paris. Donc ils étaient heureux, ils avaient le droit de commander des repas, ils se faisaient livrer des repas et des choses comme ça dans les prisons. Ils chantaient, sauf qu'au bout d'un moment, ça finit par frustrer certaines personnes, qui aussi, éventuellement mues par un sentiment de vengeance par rapport à tout ce qu'on leur a fait subir pendant des années, se sont dit, mais les aristos qui sont dans les prisons et qui chantent, nous on envoie nos gamins au front, on va leur faire comprendre ce que c'est. Bon, bien entendu, on peut pas cautionner tout ce qui s'est passé, mais c'est dans un contexte très particulier que tout ceci se déroule. Des années de soumission et de supplice font que les gens réagissent comme ça et décident de manière, pour certains, dans certains cas très organisés, de rentrer dans les prisons et de tuer beaucoup de gens. Alors je me rappelle plus, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, et c'était grosso modo environ 45% des habitants des prisons qui ont été, des gens qui étaient dans les prisons qui ont été tués, hein, pas tout le monde, hein. Il y a eu aussi au départ de ce fameux massacre de septembre pas mal de prêtres réfractaires qui se sont fait exécuter, des prisonniers de droit commun également, hein. Donc c'était vraiment ignoble ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de stratèges de la guerre, notamment Danton, qui est à ce moment-là ministre de la Justice, pensent que avant de pouvoir lutter à armes égales avec les Prussiens et les Autrichiens, ils veulent à tout prix éviter d'avoir un ennemi dans le dos. Qu'est-ce qu'ils entendent par ennemi dans le dos ? C'est-à-dire des personnes qui seraient pour cette monarchie constitutionnelle qui vient de se terminer, qui seraient pour défendre les droits du roi et pour son retour à la tête de l'État. Et donc ces gens qui seraient éventuellement pour le roi pourraient être un handicap pour l'État français et pour les gens qui partiraient au front, puisqu'ils tireraient dans le dos, entre guillemets, puisqu'ils ne seraient pas pour que la France remporte cette guerre et ces fameuses batailles. Donc en fait, implicitement, Danton va laisser faire parce qu'il s'en fiche, mais aussi parce qu'il n'a pas envie d'avoir un ennemi dans le dos. Donc voilà, c'est un petit peu la période sale de la Révolution française. Il n'y en a pas qu'une, hein, mais celle-ci est particulièrement ignoble parce que c'est la manière dont se sont déroulés les massacres qui apparemment était un peu ignoble. Mais bon, on peut comprendre que c'était un contexte qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et que les gens ayant subi des choses pendant des années se soient totalement révoltés et complètement craqués et se soient vengés. Donc il y aura des massacres énormes sur Paris, il y en aura aussi un peu dans les provinces, hein, certaines provinces aussi, on massacrera des aristocrates et des choses comme ça. Voilà pour ce qui est des massacres de septembre. Sur quoi continuer? Excusez-moi, je me perds un peu dans mes trucs. Donc les massacres de septembre, où j'en étais, c'est pas possible. Si, alors après les massacres de septembre, on arrive sur une autre période. C'est chose qui va arriver avant que très peu, juste avant que soit promulguée la Première République. Donc pendant les massacres de septembre, il y a les fameuses élections qui se déroulent en même temps, ce qui fait que très peu de gens vont se présenter pour voter. Environ 10% du corps électoral va aller voter, ce qui va provoquer un afflux énorme, enfin un très bon résultat, notamment des montagnards qui vont avoir une place intéressante à la convention. Ils vont être très nombreux. Et voilà, c'est pour situer le contexte de la convention qui va engendrer plein de choses. Ensuite, il va arriver qui est évoqué aussi Henri Guimain dans le petit documentaire audio. Je sais pas si vous avez bien compris. Il va y avoir ce qu'on appelle la bataille de Valmy, qui va redonner confiance au peuple et aux révolutionnaires aussi. Alors, il y a plusieurs versions aussi là-dessus aussi. Ce que certains historiens, notamment Henri Guimain en fait partie, disent, c'est que la bataille de Valmy est un simulacre, c'est une fausse bataille. Il y avait déjà eu un arrangement, et il suppose, lui, selon certainement des documents, je ne sais pas lesquels, que ce serait à cause ou grâce à Georges Danton, qui aurait négocié avec les Prussiens et les Autrichiens en leur disant « Écoutez, si vous voulez qu'on arrive à sauvegarder la vie du roi et qu'on arrive un jour à le remettre en fonction, il ne faut surtout pas que vous avanciez trop vite, sinon les gens vont encore plus se révolter et vont vouloir le tuer directement. Donc restez un peu plus loin, éloignez-vous, faisons croire à tout le monde qu'on a gagné cette bataille. » Alors pour dire que cette bataille est un simulacre, on ne parle pas de n'importe quoi, on s'appuie sur des faits, notamment le fait que les deux armées étaient l'une face à l'autre à des centaines de mètres d'écart et que aucune des deux armées ne va avancer. Il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de bataille. Il y aura quelques tirs de canon, un nombre de morts infime, ce qui est totalement contraire à une bataille classique. C'est pour ça que notamment Henri Guimain et beaucoup d'autres historiens pensent que c'est un simulacre et que les arrangements avaient déjà été faits dans les coulisses, comme il explique dans le documentaire audio, où il pense, lui, que Danton avait négocié peut-être éventuellement une partie du territoire français pour ne pas que les Prusses continuent d'avancer. Suite à ça, c'est la première réunion de la Convention, c'est une nouvelle Assemblée nationale en quelque sorte, qui est élue au suffrage universel. Elle se compose donc de trois groupes politiques, les Girondins, la Plaine et les Montagnards. Donc les Girondins qui vont occuper la droite, on va dire, la droite politique libérale, on dira un peu le clan pro-patronal, la Plaine, qui sont des députés, la Plaine ou le Marais, qui sont les députés du centre, centre-droit, centre-gauche, et les Montagnards, qui sont censés être la gauche radicale et ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême-gauche, notamment avec des gens comme Robespierre, Danton, même si a priori est censé être Montagnard et quelqu'un qui est très très difficile à cerner, parce qu'il va opter pour plein de choses, pour plein de choix différents, et sa doctrine politique est très très difficile à définir, parce que je pense qu'il n'en a pas vraiment. Mais il y a aussi des gens comme Marat, comme Couthon, comme Biot-Varenne, etc. Donc c'est, et là-dedans, il y a des lignes politiques qui sont totalement différentes, hein. C'est comme si aujourd'hui on vous disait que quelqu'un qui est au Parti Socialiste, quelqu'un qui est dans l'aile gauche du PS, par exemple, serait dans le même camp que quelqu'un qui est au nouveau parti anticapitaliste. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une gauche très très large, donc ce qu'ils appellent les montagnards, mais pourtant il y a des opinions politiques à l'intérieur qui sont très très diverses. Alors, le 21 septembre 1792, la Convention abolit totalement la monarchie et proclame la Première République. Voilà ce qui va arriver. Alors, plein de lois sont mises en vote, notamment sur l'éducation. Il y a des choses très très bien qui sont faites. Le marquis de Condorcet, etc., etc., hein, qui est est un Girondin, qui va faire des choses très intéressantes là-dessus. Mais il y a un autre moment charnière de la Révolution. Et là, je vais vous diffuser aussi un petit document. C'est une reconstitution avec un acteur qui prend le rôle de Louis-Antoine de Saint-Just et qui fait un discours à la Convention. Ce discours est daté du 13 novembre 1792. Il s'agit, et selon moi, du moment où Robespierre va basculer dans un autre mode de pensée. Lui, que je vous ai cité au tout début de l'émission dans l'introduction, où il fait ce discours où il explique qu'il est contre la peine de mort. Et il le sera toujours un peu sur le principe. Après, malheureusement, il optera pour d'autres méthodes. Et le moment où, pour moi, il va basculer, c'est celui-là. Lorsqu'il entend le discours à la Convention d'une personne qui est très très proche de ses opinions politiques sur énormément de points, et qui va l'éclairer et qui va le faire opter pour une certaine méthode radicale, on dira à certains moments, notamment les exécutions, hein. C'est Louis-Antoine de Saint-Just, donc, qui est dans ce petit film fictionnel qui est sorti, qui a été financé par France Télé, qui parle de la Révolution française. Donc les premiers jours de la Convention, et Louis-Antoine de Saint-Just intervient à la tribune. On écoute ça. Alors je sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Louis-Antoine de Saint-Just, mais il est pas mal du tout. Écoutons.
La parole.
Non, c'était à moi.
Ah non, c'est mon tour.
Non, à moi.
Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen
Saint-Just.
Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyen, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
Voilà, on a encore le même problème de qualité de son. Là, je pense que c'est au niveau de la conversion de mon format de fichier qui a dû avoir un petit problème. Donc peut-être que je rediffuserai ça la semaine prochaine, histoire qu'on comprenne bien ce qui se dit. Oui, donc en gros, il fait un discours pour expliquer, pour légitimer le fait que il faut exécuter le roi, il faut le tuer parce que de toute manière, c'est un usurpateur des droits des citoyens et que si jamais on le garde dans la coulisse sans jamais prendre de décision à son sujet, il est susceptible d'un jour vouloir reprendre le devant s'il est poussé par certains contre-révolutionnaires. Alors, dans cette optique-là, il décide de... Saint-Just pense que c'est la meilleure solution, même si c'est pas à ce moment-là que la décision sera prise. Il pense que la meilleure des solutions, c'est l'exécution pour l'ancien roi. Voilà pour ce soir. Alors, pour l'instant, on est arrivé au niveau de la fin, le début de la Première République et la Convention. Et là, on va rentrer dans la période la plus radicale de la Révolution française. On va parler la semaine prochaine d'autres événements, notamment l'arrivée du calendrier révolutionnaire, la grosse arnaque, l'ouverture du procès de Louis XVI pour savoir ce qui va venir de son sort. Notamment, l'exclusion des députés girondins, l'assassinat de Marat, enfin plein de petites choses comme ça. Et la politique de Robespierre, notamment au sein de la Convention aussi, puisqu'à un moment donné, il va décider de rentrer au comité de salut public, parce que étant donné que nous étions la France dans un état de guerre, et la décision qui sera prise, ce sera de créer des comités, comité de salut public, comité de sécurité, je sais plus, il y en avait trois. Et ces comités vont diriger, chapeautés par la Convention, qui doit à chaque fois donner son avis tous les mois pour savoir si ces comités sont reconduits ou non. Souvent on dit que certaines personnes disent que à ce moment-là c'était une dictature. Il y avait des décisions qui étaient prises par certaines personnes dans un comité où ils étaient au 10 ou 15, quelque chose comme ça, mais c'était toujours chapeauté par la Convention, c'est-à-dire que si la Convention n'était pas d'accord avec les décisions qui étaient prises à la fin du mois, elle pouvait décider de ne pas renouveler toutes les personnes qui étaient au comité de salut public. Voilà, on va parler un peu de tout ce qui se passera à ce moment-là, notamment les premières décisions qui seront prises, l'arrivée de Danton au comité de salut public, son départ, etc., etc. Alors, on va se passer un petit morceau et ensuite on va se dire au revoir. Alors le morceau que je vais vous diffuser s'appelle « Ils ont peur de la liberté » et c'est un morceau de Kenny Arcana. Si celui-là a une qualité de son correcte, ma foi. Thank you.
durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges, on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au carcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades.
Ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leur crainte et leur phobie. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Tiens, la connaissance, c'est la force, c'est la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie. Si tu sais penser par toi-même, n'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter sans retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Évite-toi, le temps voudrait te corrompre. Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux. Parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que tu ne sais l'établir. Te porte, camarade.
Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. C'était Kenny Arcana avec Ils ont peur de la liberté. Et nous avons parlé toute la soirée de la Révolution française, enfin toute la soirée, pendant toute l'heure de la Révolution française. Je vous rappelle donc les contacts par lesquels vous pouvez nous joindre ou nous suivre. Donc il y a la boîte mail qui s'appelle lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, le blog sur le site de Radio Canu concernant les yeux grands ouverts. Vous allez sur le planning de la radio, vous cliquez sur les yeux grands ouverts et vous allez tomber sur le blog de l'émission avec tous les podcasts que vous pourrez réécouter. Il y a la page Facebook, vous allez sur Facebook, vous tapez les yeux grands ouverts également. Vous mettez j'aime et vous saurez tout ce qui se passe et vous connaîtrez tous les thèmes de l'émission à l'avance. Il y a aussi des documents qui sont relayés, des vidéos, des choses comme ça. La campagne de soutien aussi à Radio Canu. Envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Et puis, que vous dire de plus à part que nous vous souhaitons une excellente nuit, et puis amour et révolution, et à la semaine prochaine pour la fin de l'histoire de la Révolution française.